Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le café, spécialement l'espresso, constitue, selon un récent sondage, le produit dont les Français auraient le plus de mal à se passer. 40% de nos concitoyens en absorbent quotidiennement, contre seulement 9% des Allemands et 8% des Britanniques. Alors consommé au café, au bureau ou à la maison, le petit noir vient donc en tête de nos péchés mignons. Franck Ferrand a choisi aujourd'hui sur Europe 1 de revenir sur cette boisson qui est aussi, je le rappelle, un excitant. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est la bonne heure, me semble-t-il, pour parler de café. Nous allons le faire dans la plus grande, on peut dire dans la plus experte et la plus agréable des compagnies, puisque Catherine Khodorowski est des nôtres et nous allons voir avec elle d'où vient le café, comment il est arrivé en Europe, sous quelle forme il s'est répandu et quelles habitudes il a créées au fil des siècles.
Alors que vous soyez ou non buveur de café, c'est le moment de nous adresser vos messages via Facebook ou sur le site internet d'Europe 1.
Et puisque vous parlez de messages, Julia, je voudrais en profiter pour remercier toutes celles et tous ceux qui me soutiennent et m'encouragent. Vous êtes très nombreux et cela permet de relativiser parfois les attaques acerbes de quelques-uns.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Sous Louis-Philippe, les grands boulevards, l'épicentre de l'élégance parisienne, sont encombrés de fiacres, de landaus, de brougames, donc de chevaux. On voit s'y aligner les théâtres, les salles de concert, les restaurants, c'est tout nouveau les restaurants à l'époque, et bien sûr, les cafés. Café de Paris, café Tortoni, surtout réputé pour ses glaces et ses sorbets. On venait chez Tortoni, vous savez, on pouvait aussi remporter des sorbets qu'on allait consommer chez soi. Café Hardy, bien sûr, c'est là que se retrouvent Musset, Chopin, Liszt, Barbet d'Orvilly, Théophile Gautier, Sainte-Beuve et Hugo et Balzac lui-même. J'ai eu l'occasion déjà de vous parler du café Hardy, son seul vrai concurrent étant le café Riche. À l'époque, vous savez, on disait qu'il fallait être riche pour aller chez Hardy et Hardy pour aller chez Riche. Vous voyez ces vitrines magnifiques, les plus belles qu'on ait jamais vues à Paris à cette époque, et ce décor renaissance complètement romantique avec des boiseries à perdre la tête. Les clients peuvent choisir eux-mêmes les morceaux de bœuf que le patron fait cuire au grill. On peut dire que ce café Hardy est le plus fameux de la capitale. Chez Hardy, sur la grande banquette d'angle, sous les miroirs, sont assemblés les jeunes dandys, petits cigares aux lèvres, impeccablement sanglés à l'anglaise dans leurs gilets de soie ivoire, gants beurre frais, cannes à pommeau. Que font-ils ces jeunes gens? Eh bien, essentiellement, alors ils parlent, hein, ça je vous confirme qu'ils parlent beaucoup, et ils font toutes sortes de plans sur la comète, mais surtout, ils sirotent du café. Et ils ne sont pas les premiers, certes. Cela fait déjà près d'un siècle à cette époque que les cafés parisiens sont devenus célèbres. On parlera tout à l'heure du café Procope, évidemment. Ils ne sont pas non plus les derniers, tant il est vrai que depuis la belle époque, le café de la Paix, place de l'Opéra, le café de Flore et les Deux Magots sur l'autre rive à Saint-Germain-des-Prés sont devenus les symboles d'une certaine forme de sociabilité. Il va y avoir, au tournant du XXe siècle, la mise en place d'un véritable lieu social particulier, ce que certains ont appelé un lieu de mémoire. Ce sera le grand café tel que Charles Trenet le chantait.
Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café.
Charles Trenet sur Europe 1 avec le grand café Franck.
Alors aujourd'hui, ce ne sont pas les cafés qui vont retenir notre attention. Quand je dis ce ne sont pas les cafés, c'est pas vrai, parce que vous allez voir que tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons explorer tout un ensemble de petits cafés, les derniers troquets tels qu'on les aime, tels qu'on les adore. On va y venir tout à l'heure. Mais pour l'instant, parlons déjà du café, du produit en lui-même, consommé certes dans des lieux publics, mais aussi de plus en plus à mesure que passaient les décennies en privé à la maison. Café devenu institution dans tout le nord de la France, café issu de toutes sortes de cafetières plus ou moins sophistiquées, jusqu'aux très contemporaines machines à espresso qui font partie de notre quotidien. Catherine Khodorowski est ici avec sa marmite à malice et ses mille et une histoires de l'alimentation, de la gastronomie, de l'art de vivre d'une façon générale. Bonjour Catherine.
Bonjour Franck.
Merci d'être venue nous parler de café. Ça sent le café dans ce studio, si je puis dire,
absolument.
En tout cas spirituellement. D'où vient-il ce café? Quelle est son origine?
Alors ce café, il est très très ancien, puisqu'il est même l'objet d'une légende contée dans les Mille et Une Nuits, où on raconte qu'un berger de ce qu'on appelait l'Arabie heureuse a vu ses chèvres toutes excitées quand elles mâchaient les feuilles des caféiers, voire se régaler de ce qu'on appelle aujourd'hui les cerises, c'est-à-dire les petits fruits rouges.
Donc il s'est dit bête café, en fait.
Voilà. Donc il s'est dit que très certainement il devait y avoir un produit tout à fait magique dans cet arbre, dans les baies. Pour que ces chèvres soient aussi excitées et pleines de joie, ou presque. Alors, avant la boisson qu'on a connue, nous, très certainement les paysans d'Éthiopie écrasaient les grains du café dans une bouillie.
Donc, géographiquement, on est dans la corne de l'Afrique et la péninsule arabique.
Ah, tout à fait. Ça. L'origine est là. Donc, l'Éthiopie, où le café servait finalement d'épice, comme le cacao chez les Aztèques. On peut vraiment faire le parallèle. Alors, ils écrasaient ces grains dans une bouillie, et puis, ils étaient quand même déjà persuadés de certaines vertus médicinales. Donc, le berceau est vraiment en Éthiopie, dans les plateaux abyssins. Alors, quand cette graine a pu traverser la mer Rouge pour conquérir les terres de ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, pour arriver au Yémen, on ne sait pas trop, à peu près vers le XIIe siècle.
Oui, c'est donc relativement récent. On n'est pas en présence d'un aliment antique, loin de là. On ne consomme pas de café dans le monde gréco-romain. Ça n'existait pas à l'époque.
On n'a pas trouvé de traces, en tout cas.
Ça n'existait pas, oui.
Alors que dans des urnes funéraires en Égypte ou dans le berceau de la Méditerranée, on a pu trouver des traces d'autres aliments.
Bien sûr.
En tout cas, là non. Et on pense que c'est aux alentours du XIVe siècle qu'au Yémen, la secte des soufis ont propagé ce qu'on appelait le kawa. C'est donc le terme arabe.
Ça a un sens, d'ailleurs. Faut dire d'où ça vient. Ça veut dire quoi, ce kawa? C'est l'élan, en fait. C'est l'impulsion. En fait.
Voilà, donc un sens quand même un peu religieux.
Mystique, disons-le.
Voilà, alors K-A-H-W-A. Ce kawa, c'est un terme qu'on entend encore dans nos cafés. Quand on arrive sur le zinc, on peut lancer un petit kawa. Mais c'est bien aussi qu'on revienne aux sources des mots.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à partir du XIIIe-XIVe siècle, on se met à le torréfier, ce café. Donc, la préparation du café prend un tour quasiment rituel et change tout pour ce qui est du goût, pour ce qui est de l'arôme.
Alors, cette torréfaction, elle est tout à fait essentielle parce que, en fait, c'est une cuisson et par la cuisson, les arômes vont sortir du grain, comme pour le cacao, d'ailleurs. Alors, c'est une méthode très, très ancienne. On pense que les paysans d'Éthiopie torréfiaient déjà, évidemment, on n'utilisait pas ce mot-là, on est bien d'accord, on cuisait, on faisait un trou dans la terre, on y jetait du feu, on couvrait et on attendait que les grains soient les plus noirs possibles. Et aujourd'hui, la clé d'un bon café, c'est une bonne torréfaction.
Mais oui, bien sûr. Alors le café en question, ça reste un café très poudreux et mousseux, sans doute assez proche de ce qu'on peut consommer encore aujourd'hui à Istanbul. C'est-à-dire un café où il y a, si je puis dire, presque autant à boire qu'à manger.
Absolument. Ce qu'on appelle le café turc, c'est un mélange du grain torréfié et moulu, qu'on va mélanger avec de l'eau et du sucre pour en faire, je ne vais pas dire une liqueur, mais c'est un petit peu ça. On va attendre un petit peu que cette poudre soit au fond
du café.
Elle retombe,
en fait. Oui.
Elle retombe. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une tradition aussi de divination.
Eh bien, voilà. À partir du moment où vous avez bu le liquide et qu'il ne reste que la poudre dans le fond de la tasse, ou plus souvent d'ailleurs de la soucoupe, alors il est possible de lire dans les dessins que forme le marc.
Alors, la tradition veut que, effectivement, quand il n'y a plus une goutte de liquide, mais juste de la matière, on va dire, hein, on retourne la tasse, on attend quelques minutes et on regarde les dessins qu'ont formé cette poudre en descendant. Alors là, il y a plein de légendes. Est-ce que ça ressemble un peu à un poisson, à une tête de cheval, pour imaginer ce que pourrait être notre avenir.
On est là dans les arts divinatoires. Il y a donc quelque chose de d'emblée, on a vu de mystique probablement, quasiment de magique maintenant, avec cette capacité qu'ont certaines devineresses à lire l'avenir dans le marc de café, et puis une dimension de sociabilité, puisqu'on va voir se développer des maisons de café dans l'Empire ottoman d'abord. C'est vraiment une tradition turque, ça, au début.
Alors absolument, les premières maisons du café sont apparues au XVIe siècle dans des grandes villes arabes et turques. Alors à La Mecque, au Caire, à Istanbul, et c'était vraiment des lieux de convivialité à prix modique, qui permettait un brassage des milieux, et ce qui est très important, un échange des idées. On jouait aux échecs, au tric-trac, on récitait des poèmes, et c'était aussi un lieu de rencontre sociale qui pouvait être utile. Donc, du brassage social, ça c'est très important.
La porte de l'Europe, la porte ouverte sur le monde oriental, c'est Venise. Et donc c'est par Venise, c'est pas un hasard si les grands cafés vénitiens sont restés célèbres, c'est par Venise que le café va commencer sa conquête de l'Europe.
Venise est vraiment une plaque tournante pour plein de choses à boire et à manger. Et puis aussi dans la diffusion des idées aussi autour
des modes d'alimentation,
des modes et des symboles. Et effectivement, il faut bien attendre une vingtaine d'années après l'apparition du grain et de la boisson en Europe pour que s'ouvre par des Arméniens et des Syriens. Donc on pense fin du XVIIe siècle à peu près, ces maisons du café en Europe. Alors, les cafés les plus célèbres qu'on connaît encore, c'est à Venise le Florian,
oui,
à Vienne
sûr. Le
Demel, et puis un peu après, à Paris, le Procope.
Alors on va venir sur tous ces grands cafés mythiques qui ont fait la sociabilité européenne dans un instant, sans perdre de vue le produit lui-même qui, à mesure que passent les décennies, va évoluer jusqu'à changer carrément de goût.
Sur Europe 1 de la cantate du café de Jean-Sébastien Bach, Franck.
Beaucoup de messages à propos du café. Chantal nous dit « Quel plaisir de boire un bon café. Pas un jour sans un café, sinon mauvaise journée. Laure, qui nous a apporté des macarons vendredi, me propose un macaron avec le café. Merci Laure,
ils étaient
délicieux. Merci encore et bravo pour vos émissions, nous dit Catherine. C'est vrai que c'est le moment de parler du café. On est exactement à la bonne heure pour en parler, en effet. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous sortent de table, tout simplement, à ce moment-là. Alors, nous étions en train de dire, Catherine Kodorowski, que le café était arrivé essentiellement par Venise et que très vite, il va faire école dans un certain nombre de puissances commerciales. Ça n'est pas un hasard. Si finalement, ce sont les grands pôles du commerce européen et du négoce qui vont voir fleurir le café, si je puis dire. Je pense aux Pays-Bas notamment, où ça devient assez vite un must.
Et oui, parce que la Hollande a toujours joué un rôle essentiel dans le commerce maritime,
voilà,
dans le commerce des épices, et le café faisait partie finalement du commerce des épices. Alors, dès les premières années au XVIIe siècle, on ont remplacé les caravanes arabes des grandes compagnies maritimes européennes. Et là, les premières, effectivement, ont été fondées par les Hollandais. On peut citer en 1600 la East India Company, qui fut vraiment la première à envoyer ses navires sur la route des Indes. Mmh. Et puis ensuite, ces Hollandais ont créé la Compagnie hollandaise des Indes orientales en 1602. Et c'est donc en envoyant des plans dans leurs colonies qu'ils ont commencé vraiment à organiser, si on peut dire, la culture du café.
Il faut dire qu'on a piqué les plans de Mocha aux Arabes. Hein, c'est ça l'idée. Il y a des cargaisons qui ont été arraisonnées. On a pris des plans, on les a réimplantés. Et évidemment, pour les Hollandais, c'est devenu une source de commerce très, très, très importante.
Alors ça, c'est très courant dans l'histoire de l'alimentation. On pique les plans. Hein, c'est parce qu'un pays est fier, effectivement, quand il a la clé de la vanille ou du cacao ou du café. Et finalement, c'est en piquant un plant qu'on arrive à créer une culture, mais aussi un besoin.
Mais ce besoin, il se crée essentiellement par la mode. Et qui lance les modes au XVIIe siècle ? Ce sont les rois, c'est la cour. Bien entendu, on l'a vu l'autre jour avec le chocolat. Hein. Vous nous avez expliqué l'importance d'Anne d'Autriche, puis de Marie-Thérèse d'Autriche dans l'importation du chocolat à la cour de France. Eh bien, de la même façon, c'est en recevant un ambassadeur turc que Louis XIV, en 1669, va goûter pour la première fois au café. Il y prend goût, et alors du moment que le roi aime, il faut que tout le monde aime, hein, c'est ça l'idée.
Absolument. En 1669, Soliman Aga, qui est un ambassadeur sultan, va arriver à Paris, va offrir quelques plans à Versailles. Et là, effectivement, c'est un engouement. Et comble de mode, Madame de Sévigné va en parler.
Ah oui,
alors là, à partir de... Parce que c'est la chronique mondaine. Hein, c'est elle qui fait la mode. Et à partir du moment où on en parle dans les chroniques, les courtisanes en veulent. Effectivement, on copie ce qui se fait chez le roi.
Cela dit, elle s'est un peu trompée, Madame de Sévigné, à propos du café. De même qu'elle s'était trompée sur Racine, parce qu'elle dit dans une de ses célèbres lettres à sa fille, Racine passera comme le café, dit-elle.
Voilà.
Hein. Ni l'un ni l'autre n'a passé.
Ni l'un ni l'autre sont passés, absolument.
Alors, on va se mettre également à lancer des plantations dans l'île que nous appelons dans l'île de la Réunion. Ça devient une denrée coloniale, ne l'oublions pas, le café. Hein. C'est un moyen de stimuler le grand négoce intermaritime, en fait. Hein.
Alors, c'est une denrée coloniale et on est obligé de le dire, c'est une denrée qui a généré un gros trafic d'esclaves.
D'esclaves, bien sûr. Hein.
Voilà, aux Antilles, puisque le café français arrivait des Antilles et il y a eu effectivement un développage, une extension des cultures avec des milliers et des milliers d'esclaves. Et on peut dire que les révoltes de ces esclaves sont en grande partie à l'origine de l'interdiction de l'esclavage aussi en Europe.
Alors, le café devient à la mode en France dans les premières années du XVIIIe siècle. Hein. Avec la mort de Louis XIV en 1715, le café devient un peu le symbole de boisson de liberté, en quelque sorte. Et c'est la création alors des fameux cafés dont on parlait. Le Procope est né déjà à l'époque. Hein. Il existe déjà depuis un certain temps, depuis 1680 quelques. Hein,
en 1686.
Voilà, hein, c'est ça.
Le Procope. Alors, Franck, vous avez parlé de liberté. Je crois que c'est un mot qui va bien avec le café. Parce que le lieu où l'on boit le café est un espace de liberté, c'est un espace de rencontre, c'est un espace de brassage social. Et par exemple, il ne faut pas oublier qu'au café de Foix, au Palais Royal, le 12 juillet 1789, Camille Desmoulins monte sur une table et exhorte la foule en colère à prendre les armes. Donc c'est un appel à la liberté.
Oui. Voltaire adorait le café, il en abusait même, semble-t-il. On sait que Balzac, beaucoup plus tard, alors en fera un usage carrément nocif, lui, puisqu'il ne buvait que ça à longueur de temps. Il tenait dans l'écriture invétérée de ses grands feuilletons, il ne tenait que grâce au café.
Alors oui, Alors, grâce à la caféine,
oui, c'est ça.
qui excite l'âme, les artistes et les écrivains disent que ça excite leur créativité. Alors, il y a une citation de Voltaire qui dit si c'est un poison lent. Hein, voilà. Et cette phrase très amusante de Alphonse Allais qui dit le café est un breuvage qui fait dormir quand on n'en boit pas.
C'est une façon de considérer le café qui en vaut une autre. Nous allons dans un instant vous parler de, j'ai envie de dire, d'un certain commerce très oublié aujourd'hui, de colporteur. C'était la maison Caïfa. J'y viens dans un instant dans le cadre du récit.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1 l'épopée d'une famille de marchands de café.
Et c'est même, disons-le, un récit d'Uri Zelbstein, puisque c'est dans un article qu'il avait fait paraître en 1986 que j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, car j'en avais vaguement entendu parler, l'histoire de ces colporteurs, vous savez, qui se promenaient à travers les villes et les villages avec de petites charrettes bleues. Et il y avait écrit dessus aux planteurs de Caïfa, c'était le nom, c'était la marque de cette épicerie, si vous voulez, des espèces de petites épiceries ambulantes, et les charrettes qui ressemblaient à des espèces de c'était à mi-chemin entre la poussette et le landau, si vous voulez. Les charrettes en question étaient tirées par des chiens à l'époque. Et puis petit à petit, lorsque les colporteurs ont pris un peu d'aisance ou se sont un peu mieux habitués au confort, on a vu des ânes remplacer les petits chiens. Mais enfin, il y avait quand même quelque chose là de... C'est du tout tout petit commerce au porte-à-porte, c'est assez extraordinaire. Alors, nous raconte Uri Zelbstein, c'est vers 1900 que l'on trouvait un petit port de pêche qui portait le nom de Caïfa, situé au pied du mont Carmel, au bord du golfe de Saint-Jean-d'Acre. C'est un tout petit port qui faisait à peu près 10 000 habitants. On est dans une parcelle de la Terre Sainte, rattachée à l'époque aux vilayettes de Syrie, donc sous domination ottomane. Eh bien, en 1889, Michel Cahin, qui est un commerçant qui vendait déjà du café, qui faisait commerce de café, il est lorrain d'origine, il est né en 1862 à Haye-sur-Moselle, c'est en 1889 donc qu'il décide de créer cette société qui va s'appeler Aux Planteurs de Caïfa, et on va voir petit à petit les démarcheurs se multiplier et arriver dans les maisons. Alors comment ont-ils fait, ce qui est très intelligent dans la démarche commerciale, c'est qu'en fait au lieu de toucher directement les consommateurs, toute la petite équipe autour de Michel Cahin a eu l'idée d'aller dans les beaux quartiers et de s'adresser aux cuisinières et aux domestiques, en fait. Et ils avaient très bien compris qu'on consommait du café non seulement dans les étages nobles des maisons, mais aussi, bien entendu, dans toutes les parties réservées aux domestiques. Et c'est en convainquant peu à peu toutes les cuisinières des beaux quartiers que finalement cette marque Aux Planteurs de Caïfa a réussi à se développer. Le colporteur, le vendeur disait, paraît-il, nous raconte Uri Zelbstein, que grâce aux planteurs et sans léser les patrons, il était possible de constituer son propre trousseau, de monter son ménage. Ben oui, parce que avec les articles qui étaient achetés, étaient offerts toutes sortes de petits produits, on va dire, c'est un petit peu de la bimbeloterie, évidemment. C'est à l'histoire anecdotique que l'on doit une autre variante sur les origines du planteur de Caïfa. Le même Michel Cahin aurait acheté au Havre la cargaison, alors il faut dire que cette cargaison était en grande partie inondée, d'un bateau qui avait subi une avarie. Le café vert en sac faisant partie du fret était pratiquement invendable. Il a donc été cédé à vil prix. Et puis, lorsqu'il a été séché, torréfié, parce que ça c'est l'un des mérites du café, c'est quand le torréfiant on arrive à récupérer des cargaisons qui parfois auraient pu être considérées comme perdues, séchées, torréfiées, récupérées à bon compte, tout ça a pu être vendu par colportage à domicile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette deuxième version a le mérite de la franchise, et à mon avis elle est sans doute très proche de la vérité. Peu importe l'origine de ce négoce, ce qui est évident, c'est que le succès du café, de ce planteur de Caïfa, va être largement lié aux primes, c'est-à-dire à ces petits objets, des torchons, des serviettes, des boîtes pour le sucre, pour le sel, la farine, des tasses, des assiettes, etc., qui étaient distribués en même temps que le produit lui-même. Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on peut conclure que ce mode de vente vente à domicile, de vente sinon forcée, disons aidée, a eu un rôle non négligeable dans la diffusion du café domestique. Parce que ce que nous avons évoqué jusqu'ici, c'était essentiellement un café de sociabilité qui se consommait dans les cafés, c'est-à-dire dans les établissements destinés à cet usage. À partir des années 1900-1905, avant la Première Guerre mondiale, on voit le café s'emparer des cuisines et des arrière-cuisines, et donc des salons, et donc des maisons. En 1910, avec le déplacement du siège de son affaire à Londres, Michel Cahin regroupe ses activités au sein d'une société qui s'appelait l'Anglo-Continental Supply Limited. Ça continue à s'appeler officiellement Aux Planteurs de Caïfa, société britannique, mais qui, évidemment, pour l'essentiel, fait ses affaires en France. Aux côtés de Michel Cahin, on trouve un certain nombre d'hommes d'affaires anglais qui, alors, eux, vont avoir l'idée, évidemment, de multiplier, de surmultiplier les circuits de distribution. On va voir peu à peu s'installer des dépôts relais, des usines pour la torréfaction, des brûleries de café, tout un réseau de distribution qui, partant de la région parisienne, va littéralement innerver l'ensemble de la France. Et c'est, là encore, l'une des origines, peut-être la plus probante, de la dispersion de cette mode et de cette habitude du café à travers la France. Il ne faut pas oublier que ce café, il reste encore aujourd'hui particulièrement présent dans le nord et dans l'est de la France. Il y a là sans doute une tradition qui remonte au XVIIe siècle, ce que nous avons vu avec les Néerlandais, avec les Flamands, etc. Mais il y a aussi comme raison à cette dispersion, à ce grand succès du café dans le nord de la France, il faut voir sans doute le réseau extrêmement serré de petites succursales et de colporteurs qui n'existaient pas beaucoup moins dans le centre et encore moins dans le sud de la France. 1922-1932, nous dit Uri Zelstein, c'est la décennie héroïque du planteur. Son réseau de vente divisé en 20 régions, chacune gérée par un directeur régional, se développe. Une centaine de dépôts alimentent environ 2500 succursales dont l'activité urbaine et rurale permet la pénétration des produits offerts dans les coins les plus reculés des campagnes. Le café a cessé d'être parisien, il devient la boisson préférée des Français. On est là au moment, donc, entre les deux guerres, hein, et on peut dire qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, le café a définitivement conquis les Français. Ce que vous nous avez dit en début d'émission, Julia, sur ce récent sondage, qui date de 2011 en l'occurrence, prouve que les Français n'ont pas changé d'habitude et que le café reste leur habitude alimentaire numéro 1.
Esto es para ti, mamita. Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
La colegiala sur Europe 1, Rodolfo Isutipica, qui a servi de musique à une célèbre pub pour le café.
Oui, on est en plein dedans. On peut dire, Catherine Khodorowsky, que finalement, le café aujourd'hui n'est plus du tout un luxe. Mais, nous dites-vous, il y a encore des cafés de luxe.
Oui, alors, il y a le café qu'on fait chez soi et qui est de meilleure qualité, je pense, qu'il y a une vingtaine d'années, grâce à l'influence italienne. Mmh. Parce que les Italiens ont aujourd'hui un art du café. Ceux qui aiment le café adorent ce qu'on appelle un expresso, le cappuccino, tous ces cafés. Et tous les pays producteurs ont des grands crus. Comme on parle de cépage pour le vin, de cru pour le cacao, les spécialistes adorent le Blue Mountain de Jamaïque, oui, qui est le caviar du café, l'un des crus les plus chers. On parle du Supremo de Colombie.
Mais c'est une chose d'avoir le café lui-même, mais encore faut-il ensuite savoir le préparer, bien entendu. Hein.
Alors oui, il y a quand même des clés pour faire un bon café. Il faut une bonne eau. Une eau qui ne soit pas calcaire, une eau de source neutre. Il faut un café fraîchement moulu. qu'on va garder au frais, et ça c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, il faut donc acheter du café frais. Et quand on peut avoir la chance d'avoir ce qu'on appelle une brûlerie, c'est-à-dire une boutique qui torréfie son café pas loin de chez soi, on sent vraiment vraiment la différence dans les saveurs et quelle odeur de la torréfaction du café.
Alors j'ai parlé de cette dispersion du café à travers la France. Bonjour Christophe Lefébure.
Bonjour.
Vous êtes beaucoup promené à travers la France et vous y avez relevé peut-être pas tous, mais enfin un grand nombre de ces cafés tels qu'on les adore, ces petits troquets un peu perdus, un peu oubliés et dont les murs sont encore tout empreints de l'odeur du café, du tabac aussi disons-le. Enfin il y a une atmosphère très particulière, vous nous en proposer un véritable guide, ça s'appelle un café à la campagne et on a comme ça, on se promène dans ce qu'il y a sans doute de plus authentique dans la culture du café.
Je me suis surtout intéressé aux cafés de village, aux cafés de campagne, qui sont apparus en France principalement dans la seconde moitié du 19e siècle et qui appartiennent à un mouvement qu'on a pu appeler à l'époque la révolution boutiquière. Où un tas de simples agriculteurs ont compris tout l'intérêt financier qu'ils pouvaient gagner à l'ouverture d'un café, qui était un investissement de peu de frais. Et il y a eu tout un mouvement fin 19e, début 20e, du 20e siècle, où les cafés ont connu leur apogée et ont pénétré jusque dans le bourg le plus, ou dans le village, le hameau le plus petit.
Ça, c'est un paradoxe magnifique, puisque pendant longtemps, le café était symbole d'urbanité. Disons-le clairement, de snobisme, hein, les grands cafés des grandes villes, c'était le lieu où la meilleure société se retrouvait. Et puis petit à petit, on a vu la population s'approprier le café et les tout petits troquets que vous nous présentez, alors là, ils n'ont plus rien de snob, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah non, aujourd'hui, ce sont des cafés qui paraissent très rudimentaires, très simples. Et moi, j'ai un goût tout particulier, une affection très profonde pour ce style de café, qui sont souvent des cafés séculaires tenus par une même famille. Qui ont souvent vécu de la multi-activité, c'est-à-dire que c'est des cafés qui faisaient à la fois pour les uns boulangerie, pour les autres boucherie, certains coiffeurs,
eh oui.
Qui ont connu une vie très chaleureuse pendant des années et qui aujourd'hui au contraire sont des lieux...
On appelle ça des cafés mais on n'y boit pas que du café, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, c'est ça. Le mot café, on leur donne l'appellation de café parce que par imitation de la mode urbaine justement, mais principalement on y buvait surtout de l'alcool, du vin en tout premier lieu au 19e siècle. De la bière, du cidre. Et ce n'est que dans l'entre-deux-guerres que progressivement le café, en tant que boisson, a commencé à se généraliser. Mais les paysans ont très souvent, très longtemps, gardé une certaine méfiance pour le café préparé au café. Ils appelaient ça l'eau noire. Et ce n'était pas leur boisson favorite. Généralement, ils complétaient par un petit verre d'alcool.
Un petit peu de gnôle là-dedans.
Soit du Calvados en Normandie.
Quand on feuillette votre livre, on a l'impression d'être un peu de chez Simenon. Il y a cette atmosphère. C'est un lieu où on se retrouve, où l'on parle et où on échange, où l'on joue le café, hein, faut pas l'oublier.
Mais de moins en moins.
On y jouait au 421 avant.
On a joué des tas de choses, à commencer par les jeux de cartes, les jeux de dés, c'était très pratique, les dominos, parce que ça prenait peu de place et pour le cafetier, c'était un moyen de fidéliser les clients et de renouveler les consommations. Ensuite, il y a eu l'émergence des jeux, il y a eu les paris, sur les courses de chevaux, il y a eu tous les jeux de mode américaine, le flipper, le baby-foot. Et tout ça, aujourd'hui, sont des activités, des habitudes qui ont pratiquement disparu, faute de clientèle.
Et justement, on a l'impression que vous nous montrez un monde en grand danger de disparition. On a l'impression que ce sont les derniers petits cafés de village que vous nous montrez. Vous pensez qu'ils sont en danger réellement ?
Oui, enfin moi, quand je me suis intéressé vraiment à des cafés qui ont une histoire, qui sont très anciens, oui, je pense que ceux-là sont en train de, en voie complète de disparition.
Et pourquoi personne ne veut les reprendre? Ça n'est pas rentable?
Non, je pense tout simplement qu'il y a une tendance lourde au repli sur soi dans la société d'aujourd'hui, et où toutes les raisons pour lesquelles on fréquentait autrefois le café sont moins évidentes aujourd'hui.
On est sur Internet maintenant.
Autrefois, on allait au café pour boire et quelquefois des boissons qu'on ne trouvait pas chez soi. Maintenant, on dispose de toutes les boissons en vente dans les supermarchés et autres. On venait au café pour jouer, on joue chez soi. Même les PMU sont en danger actuellement à cause des paris en ligne. Bon, et puis les raisons, on festoyait au café pour le moindre événement et aujourd'hui, toutes ces habitudes-là se sont perdues.
Si je vous demandais quel est votre café préféré parmi tous ceux que vous nous proposez, il y en a un qui a votre...
J'aime bien tous ces cafés. Maintenant, le préféré, c'est sans doute un café qui est dans la Creuse, dans le village de Sardan, qui s'appelle chez Bichette, qui est tenu par deux frères. Et qui ont repris ça de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. C'est un café vraiment authentique qui n'a pas bougé.
Michel Perrault et son frère,
voilà.
C'est ça.
Café qui n'a pas bougé depuis pratiquement un siècle. et qui était fréquenté à une époque par Claude Chabrol, qui a même tourné quelques scènes d'un de ses films les plus célèbres, hein, Le Beau Serge. Et c'est un café dans le décor, il y a une grande table centrale en chêne, une cheminée, un vrai zinc. Le décor n'a absolument pas changé. C'est un vrai café de campagne.
Un café à la campagne de Christophe Lepébure, c'est aux éditions du Rouergue, et c'est une magnifique promenade à travers ce que nos campagnes peuvent sans doute offrir de lieux parmi les plus authentiques et les plus pittoresques qui soient. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire du café qui fait visiblement réagir nos auditeurs.
Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Vous m'avez donné envie de m'intéresser à l'histoire et aujourd'hui de boire un café, nous dit Anne. Eh bien, alors bon appétit Anne. J'ai souvenir d'avoir lu, nous dit Catherine, que la Bialetti, cafetière italienne créée dans les années 30, avait permis aux amateurs du café de pouvoir enfin savourer le café chez eux. Moi, je connaissais aussi la cafetière Cona. Hein. Enfin bon, c'était toutes ces très grandes cafetières, Catherine Khodorowski, qui ont révolutionné dans les années 30 le café domestique. Parce qu'il faut dire qu'avant, c'était un petit peu du jus de chaussette, ce qu'on buvait à la maison quand même.
C'était du jus de chaussette et la tradition dans le Nord, c'était de faire bouillir le café, ah oui. Ce qui était quand même une hérésie. Oui, mais il faut dire aussi qu'il y avait cette tradition très conviviale d'avoir toujours une cafetière sur le feu parce que les portes étaient ouvertes et quand on arrivait chez quelqu'un, on pouvait offrir un café immédiatement.
J'adore le café sous toutes ses formes, frappé, glacé et même dans les gâteaux, nous dit Patricia. C'est vrai qu'il faut parler du café solide en quelque sorte, hein, qui d'ailleurs est de plus en plus répandu aujourd'hui.
Alors, le café solide, oui, avec un drame quand même, c'est que très peu de gâteaux au café ont le goût de café parce qu'on utilise des extraits à base de caramel et il est très difficile de trouver un vrai et bon mocha comme on faisait dans les années 50.
Alors Yvan nous dit, Oldelaf a fait une chanson très drôle à propos du café. Ben, c'est le moment de l'entendre si vous voulez.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawa, je viens de m'élever.
Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter, le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre,
fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier, il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent.
Détends-toi René, prends un bon cigare
et un petit café.
Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi.
Oh mais moi j'ai envie de sauter.
Oh je fais tout Paris,
oh, et puis je vois un troquet.
Oh je commande un déca, mais un café inné.
Le café, l'Oldelaf de Monsieur D. Donc on était effectivement en plein dans le sujet. Hein. Bonjour Olivier Blesse. Le Maître de Café, c'est un roman que vous publiez chez Albin Michel et qui est alors imprégné, si je puis dire, de cette substance dont nous parlons depuis maintenant près d'une heure. Vous ne connaissiez pas le café auparavant, me semble-t-il. Vous l'avez découvert assez tard, vous-même.
Oui, effectivement, j'ai un petit secret personnel. C'est que jusqu'à l'âge de 30 ans, je ne buvais que du thé, figurez-vous. Et j'étais même rétif au café. C'est pas tout à fait vrai. J'aimais l'atmosphère des brûleries, j'aimais la culture du café, les couleurs du café. En revanche, je n'en avais pas bu une goutte. C'est une boisson qui ne m'attirait pas. Et j'ai été initié, on peut le dire. C'était au Brésil, à São Luís de Maranhão, dans le Nord-Est, dans un restaurant. J'ai bu une tasse absolument magique et de ce jour-là, j'ai été converti, je suis tombé dans le café. Donc en revanche, pour en faire un roman, ça a pris quelques années, je me suis documenté beaucoup.
C'est ça, c'est un roman d'une très grande richesse documentaire.
Je vous remercie.
On retourne vraiment, alors là pour le coup, aux origines du café. Alors ce sont les autres origines. C'est très intéressant d'y venir maintenant parce que nous avons beaucoup parlé tout à l'heure avec Catherine Khodorowski des origines plus ou moins légendaires arabiques. On a vu peu à peu le café arriver par via Venise dans l'Europe, on oublie que l'essentiel du café d'aujourd'hui, il nous vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Hein.
Voilà, c'est l'une des régions du monde où on continue de produire le meilleur café. Et surtout, on le produit d'une façon qui reste artisanale, souvent. C'est là que viennent les vrais crus de café. Parce que c'est une plante qui est assez exigeante. C'est une plante qui exige beaucoup de main-d'œuvre pour sa culture et aussi pour la cueillette. Figurez-vous que sur un rameau de café, toutes les cerises, comme on les appelle, ne viennent pas à maturité en même temps. Donc il faut les choisir à la main. Et donc, il y a une exigence extraordinaire qu'effectivement, on rencontre surtout dans cette région du monde.
Et là, alors, vous avez réuni pour écrire ce livre, vous le disiez, une très grande documentation. L'histoire que vous nous racontez, c'est l'histoire d'un café contemporain. C'est le café du XXe siècle, en quelque sorte. Hein. Et ça votre histoire nous entraîne au Costa Rica. Il faut expliquer qui sont les protagonistes de ce roman.
Donc, principal protagoniste, Massimo Pietrangeli, qui est un vieil homme, qui est à la tête d'un petit empire familial du café. Bon, un personnage qui est tout à fait inventé, fictionnel. Il a ouvert des brûleries dans toute l'Italie. Mmh. Il a surtout imposé son goût, des mélanges
qui
lui appartiennent.
Donc on est dans l'Italie de l'après-guerre, on va dire.
Voilà, l'Italie des années 50, qui est une époque intéressante pour le café, parce que c'est à ce moment-là que sont mises au point notamment les machines expresso. Voilà, le brevet déposé pour la première fois en 1947. Et ça va changer véritablement le goût et la saveur du café, y compris domestique. Donc cet homme-là a un accident de santé, un infarctus. Ce qui va le tirer d'affaire, peut-être paradoxalement, c'est une tasse de café.
Alors là, sauvé par le café, et il va rendre au café ce qui lui appartient, puisque il a été sauvé par le café, bien il va emmener sa famille en quelque sorte dans un voyage qui est un voyage initiatique, disons.
Oui, Massimo, c'est un fou de café, et on peut dire que toute la famille est tombée dedans, puisque, pour vous donner un exemple, à l'âge de leur majorité, les enfants Pietrangeli reçoivent une tasse qui est gravée à leurs initiales, qu'ils ne peuvent utiliser qu'en présence des autres enfants, et dont les morceaux sont répandus sur leur tombe lorsqu'ils disparaissent. Donc vraiment, ils ont voué tous leur vie au café. Mais cet homme-là, c'est à l'octave supérieure. Il a véritablement le génie du café. Et il va effectivement convier toute sa famille à un dernier voyage, puisqu'il sent la fin approcher, vers un secret familial qui est aussi lié au café, puisqu'il n'a bu que le même cru toute sa vie. On ne sait pas pourquoi, on l'apprend au cours du livre.
Voilà. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être une révélation. Le mot n'est pas trop fort pour un certain nombre de vos personnages.
Le mot n'est pas trop fort. Pour moi, le café est une boisson magique. C'est une boisson qui m'a converti, qui m'a transformé. Et il va de même pour les personnages de mon histoire.
Alors, le café dont on parle, on est très loin hein, des anciens du café turc et du café qu'on buvait chez Procope. On est dans les cafés modernes. Alors, quelles ont été les grandes étapes de révolution de la fabrication du café dans les 50 dernières années? On a d'abord eu le percolateur, ça fonctionnait comme ça au départ.
Oui, d'une certaine façon, les percolateurs, lorsque vous regardez les gravures du début du XXe siècle, ça paraît des machines très extraordinaires, très imposantes. En réalité, le principe est simple, c'est souvent une colonne d'eau qui fait pression sur la mouture du café, voilà. Et on produit du café sans système beaucoup plus compliqué. Et puis, comme je le disais, en 1947, une invention, l'idée de projeter de la vapeur sous pression sur la mouture du café, et ça va changer tout au tout, puisqu'on va découvrir l'expresso. L'expresso, notons-le, qui continue d'avoir des partisans et des détracteurs, ne croyez pas que c'est forcément le meilleur café. Il y a certains arômes qui disparaissent dans l'expresso, mais il y a d'autres arômes, en revanche, en particulier des corps gras, qui sont révélés d'une façon véritablement extraordinaire. Donc de ce moment-là, grande étape, des perfectionnements qui vont d'année en année se succéder et qui vont aboutir aux machines d'aujourd'hui, qui ne sont pas réellement très différentes de celles qu'on faisait autour des années 50. Mais qui ont le mérite d'être rentrés chez tout le monde. Et moi-même, pour ce livre-là, j'ai dû m'équiper de tout un système complet avec de quoi rôtir mon café, de quoi le moudre et de quoi tirer des expressos. Donc, ça a été une initiation complète.
Il y a évidemment, Catherine Khodorowski, un certain nombre de sous-produits du café qui ne sont pas très nobles aujourd'hui, tous les cafés solubles, les cafés lyophilisés, le décaféiné dont je fais malheureusement moi usage puisque je suis allergique à la caféine, mais on peut dire qu'il y a comme ça un certain nombre d'abâtardissements du produit initial.
Alors oui, parce que les gens ont des réactions qui leur sont propres à la caféine. Il y a des gens qui sont très sensibles, il y a des gens qui sont capables de boire un café disséré tard le soir, avant une bonne nuit. Donc on a inventé pour tous ces gens-là, soit du décaféiné, soit du café soluble. Alors ce sont, il est vrai, des cafés qu'on obtient avec des produits chimiques la plupart du temps. Donc, bon, si on peut pas faire autrement, on le fait. Les vrais amateurs préfèrent boire moins de café peut-être, mais des bons, Et puis, ce qu'il faut dire aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, un café très serré n'est pas celui qui est le plus fort en caféine. Ça, c'est un mythe, c'est une idée reçue. Hein, parce qu'en fait, l'eau va traverser, si je peux dire, l'eau ou la vapeur, le café très rapidement. Donc finalement, il ne va pas y avoir une infusion ou une décoction de la caféine.
Une imprégnation très longue de la caféine. Alors, il y a bien sûr toutes les façons possibles et imaginables de préparer le café. Certains grands établissements se sont fait une réputation sur leur préparation de café. Il y a aussi des façons très régionales de le préparer. J'ai découvert en préparant cette émission le Kaiser Mélange, par exemple. Ça, c'est une façon de faire très viennoise, ça ?
Alors absolument, en Autriche, où on va mélanger un jaune d'œuf avec du sucre, avec du cognac, avec un alcool, en fait, en plus du café. Chaque pays, finalement, a sa recette. Alors, on pense bien sûr au café viennois. On pense
au café Brûlot de la Nouvelle-Orléans.
Au café Brûlot.
Expliquez-nous ça peut-être en un mot.
Alors, le café Brûlot, là, on va faire brûler un mélange de café, de sucre et d'alcool, hein. Et puis Puis même en France, hein, le café normand avec du calva, en Bourgogne aussi avec un alcool. Le mélange du café et de l'alcool est assez fréquent quand même.
On aurait pu penser, Olivier Blaise, que pendant... on va dire il y a une vingtaine d'années, le café était en voie de disparition chez les plus jeunes. Et puis, une très célèbre marque que nous ne nommerons pas a ouvert des cafés partout sur la planète. Et maintenant, les jeunes ne se retrouvent plus qu'autour de, je ne sais pas si on peut dire café, mais une espèce de café très allongé, disons. C'est une nouvelle jeunesse pour cette boisson.
Oui, on peut parler de spécialité de café. Je pense qu'il y a deux évolutions qui sont un petit peu antagonistes. Et pour ma part, je ne suis pas devin, je ne sais pas laquelle va triompher. D'une part, vous le dites effectivement, ça c'est plutôt l'influence anglo-saxonne. Il y a de plus en plus d'établissements conviviaux, festifs, fauteuils en cuir, voilà, lumière ça, hein, tamisée, où on boit finalement assez gratuit, peu d'expressi ou de café sans mélange, on rajoute de la crème, on rajoute des topages, on rajoute du pralin, etc. Et ça donne des spécialités très spectaculaires. Mais enfin, pourquoi pas ? C'est toujours une forme de café. Et une autre évolution qui est intéressante aussi, c'est celle qui va vers la dégustation plus fine, plus choisie de crus de café. Pourquoi en France, en Europe, connaît-on aussi bien les vins ? Pourtant, on achète les vins de tel producteur, de tel millésime, de telle exploitation. Et en revanche, on se suffit d'acheter un Arabica d'Amérique du Sud moulu en supermarché. Je pense qu'il y a dans le café une potentialité de découverte de saveurs et véritablement d'engouement extraordinaire. Et peut-être que demain, je le souhaite en tout cas, on fréquentera davantage les brûleries où on pourra déguster des crus qui viennent de la même façon de tel exploitant, de tel pays, voire même de tel versant de colline. Moi, c'est l'initiation à laquelle j'ai eu droit de la part de certains torréfacteurs et j'ai découvert véritablement un nouveau monde.
Vous avez la foi des récents convertis, tout simplement. Merci beaucoup, Olivier Blaise, d'être venu nous parler du café. Le maître de café, c'est votre roman chez Albin Michel et c'est un voyage initiatique aux sources mêmes de ce breuvage. Un café à la campagne, je rappelle, de Christophe Lefébure aux éditions du Rouergue. Ce sont tous ces petits bistrots de nos villages avec leur extraordinaire pouvoir d'évocation. Et puis, je renvoie à tous ceux qui aiment Catherine Khodorowsky. Je vous prie de croire qu'ils sont nombreux car j'ai reçu des messages pendant tout le cours de cette émission. Je les renvoie à son site www.marmiteamalice.com. La Marmite Amalice, c'est votre club de gastronomie, Catherine.
Absolument.
Vous reviendrez
Merci,
bientôt
Franck.
Nous parler d'un autre de ces produits extraordinaires.
Merci Franck.